C'est le journal de Christelle Robillard. Bonjour Christelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une, peut-on encore éviter une guerre en Ukraine? Le président américain Joe Biden est convaincu qu'une invasion russe est imminente. Vladimir Poutine, lui, assiste à des manœuvres. Aujourd'hui, nous serons dans un instant près de la ligne de front à l'est de l'Ukraine, touchée par des bombardements. Les autres titres.
Oral de rattrapage réussi pour Valérie Pécresse. En meeting au Canet, la candidate a parlé sans notes et de manière plus naturelle. Les tickets restaurants vont-ils rester à 38 euros par jour? Les restaurateurs ne s'y retrouvent pas, le gouvernement on va trancher dans les prochains jours. Dans ce journal, nous irons aussi à Ottawa. Les policiers chassent les militants du convoi de la liberté. Retour sur le procès de Nordal-Lelandais. Il ne fait pas appel de sa condamnation à la peine maximale pour avoir enlevé et tué la petite Maëlys, mais il garde ses secrets. 15, c'est l'objectif des athlètes français. 15 médailles aux Jeux de Pékin pour faire aussi bien qu'en Corée du Sud. On est à 14, nous dira Laetitia Bernard dans le journal des sports.
Et le grand entretien à partir de 8h20 avec Nicolas Bay, suspendu du Rassemblement National cette semaine, puis rallié à Éric Zemmour et désormais numéro 2 de son mouvement Reconquête. Il est avec nous dans 20 minutes.
France Inter.
190 000 soldats russes mobilisés, c'est la plus grande concentration de troupes depuis la guerre froide, constate l'OTAN. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine assiste à des manœuvres militaires et à des essais de missiles. Dernière tentative d'intimidation ou veillée d'armes, c'est toute la question. Mais on sent bien que la moindre provocation peut tout faire basculer. Ainsi, à l'est de l'Ukraine, dans la petite localité de Stanitsia Luhanska, la lisière de la zone contrôlée par les pro-russes, des tirs d'artillerie, des obus ont de nouveau détruit des maisons. Thibault Lefebvre, vous étiez hier avec Jérémy Thuil, avec les habitants bombardés à moins de 5 km de la zone de front.
À chaque impact d'obus, les chiens aboient.
Les chiens, ce sont eux qui donnent l'alerte. Et quand ils aboient, il faut s'enfuir.
Et pourtant, Stanislav marche comme si de rien n'était sur le macadam abîmé des rues boueuses du village. Car il croit en Dieu, dit-il, et s'est habitué à vivre sous la menace plus ou moins intense des tirs d'artillerie des séparatistes. Mais depuis deux jours, les bombardements sont nombreux et plus proches des habitations.
Est-ce que tu as entendu? Soit ça tire par ici, soit ça tire par là. Pas besoin d'aller chercher bien loin, c'est Lugansk qui nous tire dessus.
La République séparatiste autoproclamée de Lugansk et son allié russe qui, selon Stanislav, pourrait, en cas d'offensive majeure, ne faire qu'une bouchée de Stanitsia Luhanska et de sa région.
Ici, nous sommes dans une impasse. D'un côté, ce sont les séparatistes de Lugansk et de l'autre, c'est la Russie. S'ils arrivent ensemble, ils nous écrasent.
Un scénario que redoute Stanislav. Sa mère vit de l'autre côté, à Lugansk, et le village de Stanitsia Luhanska était encore hier après-midi le dernier point de passage à pied pour se rendre en zone séparatiste.
Un reportage de notre envoyé spécial Thibault Lefebvre ce matin. Le chef séparatiste pro-russe de la région de Donetsk proclame la mobilisation générale. Alors, la diplomatie a-t-elle encore une chance? Le président américain Joe Biden s'attend à une invasion de l'Ukraine. À Washington, Sébastien Paour.
Nous avons des raisons de croire que les forces russes vont attaquer l'Ukraine dans la semaine qui vient, dans les prochains jours. Nous pensons qu'elles viseront la capitale Kiev, une ville de 2,8 millions d'innocents. Ne vous méprenez pas. Si la Russie poursuit ses plans, elle sera responsable d'une catastrophe inutile qu'elle aura choisie. La Russie a le choix entre la guerre et toutes les souffrances qu'elle apportera, ou la diplomatie et un avenir plus sûr pour tous.
Emmanuel Macron, lui, doit s'entretenir demain avec Vladimir Poutine. Il faut tenter d'éviter le pire, souligne l'Élysée. La tempête Eunice continue de balayer le nord-ouest de l'Europe. Les côtes allemandes qui sont les plus touchées ce matin. La tempête a fait 9 morts en Europe, dont 4 aux Pays-Bas. On ne compte plus les toitures arrachées, arbres emportés. En France, le vent a soufflé jusqu'à 176 km/h au Cap Griné. C'est du jamais vu depuis 40 ans. 27 personnes ont été blessées, dont 8 grièvement. Plus de 94 000 clients sont encore pris d'électricité dans les Hauts-de-France.
8h05 sur France Inter, elle se revendique sereine dans la tempête.
Valérie Pécresse a réussi son oral de rattrapage. La candidate Les Républicains était hier soir en meeting au Canet dans les Alpes-Maritimes devant 2000 personnes. Moins solennelle, plus naturelle, Anne Souhaitemont.
C'est vrai, dans une campagne, il y a des tempêtes.
il y a des bourrasques. Mais je garderai le cap jusqu'à l'Elysée.
Fini le prompteur et le pupitre. Valérie Pécresse a changé de braquet hier soir. Sans note, en totale improvisation, la candidate de la droite a déroulé son programme, attaqué le bilan d'Emmanuel Macron.
Impuissance sur la sécurité. Impuissance pour le contrôle de nos frontières. 5 ans, c'était trop. 10 ans, ce sera trop tard.
Une Valérie Pécresse métamorphosée qui n'hésite pas à jouer avec la salle en fin de meeting. Elle en avait été incapable dimanche dernier.
Vous êtes prêts à traverser les tempêtes avec moi?
Oui.
Vous êtes prêts pour ce combat?
Oui.
Vous êtes prêts pour la victoire?
Oui.
Moi je le suis, alors suivez-moi! Vive la République! Vive la France!
Sécurité, immigration, école, écologie, jeunesse, toujours le même programme mais cette fois des militants conquis.
Magnifique, elle s'est reprise, tout va bien. Notre future présidente. Je pense que là, elle parlait avec son cœur. Elle n'était pas téléguidée par des conseillers.
Elle s'est révélée davantage, sans doute. Elle se sentait beaucoup plus à l'aise.
Des militants indifférents au sondage en Berne depuis quelques jours.
Rappelez-vous Chirac-Balladur. On donnait Balladur gagnant et c'est Chirac qui a gagné.
De quoi tourner peut-être la page du Zénith.
Et dans la bataille à droite, Éric Zemmour s'affichera cet après-midi au Mont-Saint-Michel avec sa dernière prise de guerre, Nicolas Bay, venu du Rassemblement National, à qui il donne le titre de vice-président de Reconquête. Ce dernier sera l'invité de France Inter dans un petit quart d'heure. Alors que le pouvoir d'achat est malmené par l'inflation, les tickets restaurants vont-ils changer de formule? Le gouvernement doit annoncer la semaine prochaine s'il prolonge ou pas le dispositif mis en place en juin 2020. À la sortie du premier confinement, il permettait aux salariés de dépenser 38 euros par jour et non pas 19 au restaurant, y compris les week-ends et jours fériés. Mais le bilan est mitigé côté restaurateur, Agnès Soubiran.
Les tickets restaurants sont perçus par nombre de restaurateurs comme un mal nécessaire, car entre les prix des produits qui ne cessent d'augmenter et les commissions prélevées par les sociétés émettrices de ces tickets, leur marge se réduit et impossible d'augmenter les tarifs de la carte en cette période de tension sur le pouvoir d'achat. Nathalie gère 3 restaurants dans l'Aude, au bord du canal du Midi.
La plupart des gens qui utilisent les tickets restaurants, en fait, c'est souvent à midi pour manger rapidement, donc c'est souvent de l'ordre d'un plat du jour et c'est sur des produits où on ne fait pas beaucoup de marge. Donc pour nous, c'est pénalisant en termes de gestion et en termes de marge.
Supérieur aux frais prélevés lors des paiements en carte bancaire, ces commissions tournent en moyenne autour de 3%, mais peuvent aller bien au-delà, estime Benjamin Suchard, fondateur de Worklife, une nouvelle société qui entend bousculer le secteur.
La réalité, c'est que vous avez à la fois la commission, vous avez des frais fixes, vous avez un coût par transaction, vous avez des délais de règlement qui fait qu'en moyenne, vous êtes plutôt autour de 5-6% et ça peut aller dans certains cas jusqu'à 10%.
Reste qu'en cette période difficile, les tickets resto ont permis d'augmenter le chiffre d'affaires global de la restauration de près de 3 milliards d'euros.
Et puisqu'on évoquait le Covid, le Canada met fin au convoi de la liberté au bout de 3 semaines de blocage des antipasses. Les forces de l'ordre débloquent le centre-ville d'Ottawa, la capitale fédérale, à Montréal et Hélène Jouan.
Environ 1000 policiers appuyés par des blindés et des tireurs d'élite ont été déployés hier dans le centre-ville, totalement bouclé. Face à face tendue entre forces de l'ordre et camionneurs, toujours aussi déterminés à tenir le siège au cri de « liberté », mouvements de foule qui ont nécessité l'intervention de la cavalerie, mais jusqu'à présent, le chef de la police d'Ottawa défend son approche méthodique, dit-il, en tentant encore de convaincre les camionneurs de quitter pacifiquement les lieux. Avant de procéder au remorquage des camions, la police s'est surtout employée à neutraliser les manifestants en multipliant les arrestations, notamment celles des meneurs du mouvement, parmi eux Patrick King, militant d'extrême droite canadien. L'intervention pourrait encore durer de longues heures, voire plusieurs jours, avant qu'Ottawa ne soit totalement libéré de ses manifestants, alors que de façon exceptionnelle et pour assurer la sécurité des députés, la Chambre des communes avait suspendu hier son débat sur la loi sur les mesures d'urgence invoquée par Justin Trudeau en début de semaine. Cette loi qui a donné des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre et qui permet l'opération en cours. À Montréal, Hélène Jouan, France Inter.
Il ne fera pas appel de sa condamnation. Nordal Lelandais va donc purger une peine de perpétuité avec 22 ans incompressible. La cour d'assises de l'Isère l'a reconnu coupable d'avoir enlevé et tué la petite Maëlys et d'avoir sexuellement agressé ses 2 petites cousines. Il a donc été condamné, mais il est reparti avec ses zones d'ombre et ses demi-aveux. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous avez suivi pour France Inter ces 3 semaines de procès et vous avez gardé des images fortes.
Chaque jour, une longue file d'attente s'est formée devant le palais de justice pour pouvoir rentrer dans la salle d'audience, voir défiler à la barre ses témoins, les anciens amis de Nordal-Lelandais d'abord. Ils ont dit leur colère, leur incompréhension, leur culpabilité de n'avoir rien vu. Chez ce super copain, serviable, parle Nono, parle. Qu'est-ce que t'avais dans la tête, lui a lancé une ancienne amie. Il y a ses mariés aussi qui ont raconté comment le plus beau jour de leur vie s'est transformé en cauchemar quand Maëlys a disparu. Il y a cette famille, enfin, brisée, les parents, la grande sœur, Colline. Du haut de ses 17 ans, elle a fait face à Nordal-Lelandais pour lui demander d'avoir la dignité de dire toute la vérité.
Et si la famille a obtenu justice, elle n'a pas eu la vérité.
Comment Maëlys est montée dans cette voiture? Comment, quand est-elle morte? Ces questions se posaient déjà avant le début du procès. Les débats n'ont pas permis d'y répondre. Les aveux de Nordal-Lelandais non plus. Il s'est d'ailleurs contredit. Dans son réquisitoire, l'avocat général affirme que le mobile était sexuel, sans pouvoir prouver une agression ou un viol sur Maëlys. Nordal-Lelandais n'a donc pas été jugé pour cela. Dans sa plaidoirie, son avocat a expliqué que le chemin de la rédemption serait long, mais qu'il fallait laisser un espoir. Les jurés n'ont vu aucune lueur en le condamnant à la perpétuité.
Merci Mathilde et vous pouvez retrouver tout un dossier sur franceinter.fr. Ce sera rouge en bas des pistes aujourd'hui. Les trois zones sont en vacances d'hiver ce week-end. Bison futé hisse le drapeau rouge donc en Auvergne-Rhône-Alpes, gros chassé croisé. Et dans les gares, il y a aussi du monde. Bonjour Laurine Benjebria.
Bonjour Christelle.
Vous êtes garde de Lyon à Paris et l'on part en famille?
Sur les quais de la gare, les valises se pressent. Malgré l'heure matinale, Valérie affiche un grand sourire et pour cause, elle s'apprête à prendre son train en direction la Savoie. Et avec sa famille, ils ont hâte
d'être à ce soir, d'être arrivés et d'avoir la vue sur les montagnes, la neige, le beau paysage. Ça va nous changer de la région parisienne.
Mais surtout qu'avec sa famille, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas chaussé leurs après-ski.
Mais là, ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti parce que y a eu le Covid. Là, c'est le retour à l'habitude d'avant Covid avec la semaine au ski de février habituelle.
Quelques mètres plus loin, Apolline, 11 ans, trépigne aussi d'impatience.
C'est peut-être mes vacances préférées parce que je pars avec toute ma famille au ski et on va bien s'amuser.
Et pour s'amuser avec son frère, son père et sa mère, Tiffany, ils ont déjà tout un programme.
C'est ski le matin, ski alpin et biathlon l'après-midi. Les JO, ça nous a bien motivés. Et également, l'année dernière, comme il n'y avait pas de remontée, on s'est tourné vers le ski de fond et même les enfants ont adoré.
Et ils ont même un objectif cette année, faire mieux que la délégation française aux Jeux de Pékin.
À mon avis, mieux que Quentin Fillon-Mayenne, hein ?
Peut-être, ouais.
Bon, pour faire mieux, ces deux enfants ont déjà réservé leur cours de ski de fond.
Ben Gébri, en direct de la gare de Lyon à Paris.
Glisse et glace à 8h13, c'est le journal des sports. Avec Laetitia Bernard. Bonjour Laetitia.
Bonjour. Une 6e place qui brille autant qu'une médaille dans les yeux de Kevin Roland aux Jeux Olympiques de Pékin.
C'est lui qui était porte-drapeau de la délégation tricolore lors de la cérémonie d'ouverture. Termine donc 6e du halfpipe. C'est une discipline du ski acrobatique dans laquelle il faut enchaîner des figures dans un demi-tube de neige glacée. 6e, vous allez me dire, oui, donc il n'y a pas la médaille au bout. Mais bon, moins de 3 ans après l'accident de ski qui a failli lui coûter la vie, eh bien Kevin Roland, il a réussi son pari, il est revenu au tout meilleur niveau, Jérôme Val.
Et il suffisait de voir le large sourire de Kevin Roland à son arrivée au 3e et dernier run pour mesurer son plaisir durant ces 2 jours de compétition, le plaisir simple de se retrouver là, en finale olympique, parmi les meilleurs skieurs de la planète.
Je suis fier de moi, je suis content d'avoir posé un run, 3 runs même, sur les pieds, d'arriver en bonne santé et content de ces Jeux Olympiques.
Alors oui, il a sans doute rêvé d'une nouvelle médaille comme il y a 8 ans à Sochi avec sa 3e place, mais l'essentiel pour le Savoyard était ailleurs, savourer son retour presque inespéré 3 ans après une chute où la mort l'a frôlé.
J'aurais signé direct sur mon lit d'hosto il y a 3 ans pour être finaliste des Jeux Olympiques. Donc, objectif rempli.
Cette 6e place, Kevin Roland la voit aussi comme un message d'espoir au-delà de l'exploit sportif.
Si je peux passer un message, c'est dire à toutes les personnes qui sont dans des mauvais états ou qui ont des accidents de la vie que c'est pas une fin en soi, on peut toujours améliorer, on peut toujours, en travaillant et en y croyant surtout, sortir du pétrin.
C'était les derniers Jeux de Kevin Roland qui veut maintenant se consacrer à des projets artistiques autour du ski, le ski, sa vie. Zhang Jiakou, Jérôme Val, France Inter.
Et un grand merci à Kevin Roland pour ce très beau message. Au programme de cette avant-dernière journée des Jeux Olympiques de Pékin également. Aujourd'hui, le ski de fond, 50 km, le bobsleigh, mais pas le parallèle par équipe. Et oui, la météo perturbe encore les compétitions de ski alpin. Il y a trop de vent. L'épreuve est donc reportée à demain.
Allez, on passe au football avec cette question. Où sont passés les supporters?
Le tournoi de France de donc football féminin qui se poursuit à Caen et au Havre. Les Bleus affrontent le Brésil ce soir. C'est une compétition, ce tournoi de France qui doit préparer notamment l'équipe de France en vue de l'Euro. Sauf que les tribunes à Caen et au Havre, elles ne font pas le plein. Alors on attend un peu plus de monde ce soir quand même qu'en milieu de semaine face à la Finlande où seuls 3500 spectateurs s'étaient déplacés. C'est la plus mauvaise affluence pour un match des Bleus depuis 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud Rosac?
Eh bien déjà, les planètes ne se sont pas vraiment alignées pour les Bleus avec le mauvais temps, un match en milieu de semaine, un coup d'envoi à 21h10 et le contexte sanitaire. La rencontre s'est tenue seulement 2 semaines après la levée des jauges. Ça laisse peu de temps pour faire la promo d'un match et d'une équipe qui, depuis 2019, n'a participé à aucune compétition internationale, principale vitrine auprès du grand public. Il y a aussi un problème récurrent avec l'équipe de France féminine. Les trêves internationales entre les hommes et les femmes sont décalées. Résultat, cette semaine, France-Finlande se déroulait en même temps que des matchs de Ligue des Champions masculines et ce soir, les Bleus jouent en même temps que le PSG de Kylian Mbappé. Néanmoins, avec la réception du Brésil, un adversaire beaucoup plus prestigieux, le stade Michel Dornano à Caen va sonner moins creux. 11 000 places ont d'ores et déjà été vendues.
France-Brésil au féminin à 21h ce soir.
Merci Laetitia.
Merci à vous Christelle Robière pour ce journal Le Temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et les prévisions de Jean-Michel Golinski.
Accalmie en matinée au nord de la Loire avant le retour progressif de la pluie et d'un vent soutenu en seconde partie de journée dans la moitié nord du pays, vers 100 km à l'heure sur les côtes, 80 dans l'intérieur. Autour de la Méditerranée, le soleil va s'imposer largement grâce au Mistral et à la Tramontane turbulent. Et puis entre les deux, les éclaircies seront dominantes, sauf près des Pyrénées où l'ambiance sera maussade. Et ce matin, le ciel va rester assez bouché entre le massif central de Jura et le nord des Alpes, avec en début de journée de faibles gelées sur le centre et le Val-de-Loire et cet après-midi une baisse sensible des maximales par rapport à hier avec 9 à 12 degrés en général jusqu'à 16 à Toulon, Ajaccio et Montpellier.
Jean-Michel Golinski, Météo France.